Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
I have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, liberty and justice for all.
Bonsoir à toutes et à tous. Yacouba Ouédraogo, effectivement, avec vous pour votre émission L'Amérique et vous. Depuis le studio 9 de la Voix de l'Amérique, ici à Washington, ce soir, nous parlons du sport le plus populaire au monde, le football. La star du ballon rond, Lionel Messi, a signé à l'Inter Miami, club du championnat de football nord-américain, au lieu de céder au pétrodollar de l'Arabie Saoudite avant Messi. Des stars comme Zlatan Ibrahimovic, Didier Drogba, Thierry Henry, David Beckham et Pelé ont joué en MLS. Quel pourrait être l'impact de Messi sur l'Inter Miami et sur le foot aux États-Unis? Que pensez-vous de cette façon de faire des joueurs vedettes en fin de carrière? Pourquoi les stars africaines en fin de carrière ne reviennent pas jouer en Afrique? Nous en parlons dans ce numéro de l'Amérique et vous avec nos invités. Avec nous ce soir pour décortiquer ce sujet, depuis Ottawa au Canada, nous avons Tarsis Aririmana, journaliste indépendant, formateur en management du sport et en éducation. Il a deux centres de formation, disons, en Lausanne en Suisse et à Montréal, où il forme des entraîneurs de l'Afrique et des Caraïbes sur le financement du Comité international olympique. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir, Yacouba.
Merci d'être avec nous. D'ici là, on aura en direct d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, donc Eugène Begré Yago. C'est un ancien international et ivoirien, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations au Sénégal en 1992 avec les éléphants. Il a également remporté la Super Coupe d'Afrique avec l'Africa Sport d'Abidjan en 1992. Et puis, il est champion des vainqueurs de Coupe toujours en 1992. Il est médaillé de bronze de la CAN en 1994, c'est à Tunis, et donc il va nous rejoindre d'ici là. En attendant, alors Tarsis, Lionel Messi a débarqué à l'Inter Miami en MLS, le championnat nord-américain de football, au lieu de signer en Arabie Saoudite, où il était pourtant convoité contre des millions de dollars. Pourquoi ce choix de l'Argentin, selon vous?
Eh bien, ce choix de l'Argentin, c'est d'abord en contact avec son agent, comme on le fait, mais aussi, je pense que quand on parle des millions de dollars, les gens oublient que aussi aux États-Unis, le Major League rapporte pas mal d'argent, d'autant plus qu'on permet à Messi d'investir dans des grandes sociétés aux États-Unis qui peuvent être liées à son club. N'oubliez pas que c'est un grand club, même si ce club est au bas du classement. Et le club de George Mass, un millionnaire, évidemment. Et puis ce contrat, c'est un contrat intéressant dans la mesure où c'est un contrat qui n'est pas géré par le club, mais qui est géré par le Major League Soccer. Donc l'Argentine, c'est à côté des États-Unis. Et ceux qui financent le sport au niveau mondial, que ce soit au niveau de la FIFA, on trouve des grandes sociétés américaines. Je pense qu'il a préparé son avenir.
Voilà, qui est dit. Alors, je l'annonçais, Eugène Begré Yago, ancien international ivoirien, vainqueur donc de la CAN en 92 avec les éléphants. Je le disais également, vainqueur de la Super Coupe d'Afrique avec l'Africa Sport d'Abidjan en 92, toujours en 92. Vainqueur donc de la Champions League africaine, ça s'appelle maintenant comme ça. Et puis, les médaillés de bronze de la CAN 94 à Tunis. Bonsoir, Begré Yago.
Bonsoir, mon frère.
Alors, on le sait, Jordi Alba et Sergio Busquets, anciens coéquipiers de Messi au FC Barcelone, l'ont rejoint à l'Inter Miami. Il aura donc la possibilité à la fin de son carrière, parlant de Lionel Messi, d'être actionnaire dans un club de MLS, entre autres, clause de son contrat. Est-ce que tout cela fait partie du plan Messi à l'Inter Miami, d'abord, et en MLS ensuite?
Oui, vous savez que l'arrivée de Messi du côté de l'Inter Miami a un impact astronomique. Un impact économique, un impact sportivement et un impact militaire. Vous savez, l'arrivée de Messi a un impact médiatique sur le football noir américain. en faisant venir Rodelba et Busquets, ça veut dire que Messi vient pour relever un défi de donner de la visibilité à ce football nord-américain où le basket de deux bouts domine actuellement, mais l'arrivée de Messi a braqué toutes les caméras du monde, tout ce championnat. Donc, au niveau même des abonnés, regardez, l'Inter de Miami était à 1 million d'abonnés, aujourd'hui l'Inter de Miami est à 2 millions d'abonnés. Il y a déjà l'impact de Messi sur ce club, mais surtout sur la marchandise soccer du côté nord-américain. Pour moi, son arrivée va booster ce football-là et va l'amener dans les routes de nation.
Alors, justement, l'Inter Miami, hein, Tarsis l'évoquait tout à l'heure, est actuellement dernier sur les 29 équipes que compte la MLS et a fait une série de 11 matchs sans victoire. Alors, Tarsis, qu'est-ce que Messi pourra changer dans ce club et dans le foot américain?
Il pourra faire ce que les autres ont fait, mais améliorer au niveau de l'image de son football. Car n'oubliez pas, après le passage de Pelé, après le passage de Beckham, disons que son football, de loin, est devenu commercial, est devenu attirant, et les États-Unis ont organisé aussi la Coupe du Monde de football. Et n'oubliez pas que grâce à ce monsieur qui vient d'ailleurs, qui passe par là, et la Ligue, qui est devenue major avant, et bien qui, où on trouve les Mexicains dedans qui jouent au football, c'est qu'actuellement, les États-Unis sont très visibles. Et l'équipe des États-Unis est là, la Coupe du Monde depuis 1930. Mais regardez, pour les dames actuellement, ça fait 4 titres au niveau du championnat du monde et 4 titres olympiques. C'est quand même une visibilité après tout ce qu'on a vu. Donc, qu'est-ce qu'on veut de cette équipe? D'abord, je vois pourquoi est-ce que Tata Martino est un Argentin et qui attire évidemment Messi, le meilleur joueur du monde, comme Sophie Pelé à l'époque, en 1975, et Beckham aussi, qui a fait beaucoup et qui a investi dans le football aux États-Unis. On a Jordi Alba, et puis on parle aussi de Diego Gomez. Donc, je pense que Messi est capable de redresser cette équipe pour qu'elle puisse non seulement être rentable au niveau commercial aux États-Unis, mais aussi se hisser effectivement à la tête de cette Ligue de l'Ouest. Donc, à mon avis, je pense qu'il y a techniquement, c'est un beau choix. Commercialement, là, c'est autre chose. C'est vraiment quelque chose de génie qu'on peut faire quand on voit que les États-Unis maintenant sont en train d'accueillir des grandes vedettes venues d'Europe avec, grâce à cette règle de camp, c'est-à-dire c'est un règlement de 3 joueurs désignés, donc chaque club est capable de désigner 3 joueurs et ces 3 joueurs peuvent avoir des salaires faramineux et avec bien sûr des primes par rapport à d'autres évidemment. Donc je pense que c'est vraiment un choix qui a été bien fait, calculé commercialement et techniquement.
Vous le disiez, hein, avant Messi, des stars comme Zlatan Ibrahimovic ou encore l'Ivoirien Didier Drogba qui a joué pour Phoenix, Thierry Henry, David Beckham et même le roi Pelé de 75, disons, à 77 à Cosmos de New York ont joué en MLS. Malgré tout, le foot américain n'a pas vraiment décollé. Il y a une sorte de stagnation. Beugré Yago, est-ce que la star argentine pourrait-elle changer grand-chose, en dehors bien sûr de l'aspect commercial?
Non, c'est vrai que vous le dites si bien et je suis d'accord avec votre analyse. C'est vrai, comme je le disais à l'entame de cette émission, il y a le basket de baseball qui a mis une place prépondérante dans l'esprit des Américains, mais c'est vrai, depuis Pelé, depuis Beckenbauer, du côté du Barcelone, mais cette arrivée de Messi a une autre dimension planétaire. Vous savez que Messi, il attire les caméras, il attire, il fait un véritable d'aspirateur qui va apporter à ce football-là, mais le développer de Messi. Sur un long moment, sera difficile. Il a aujourd'hui 36 ans. J'étais venu plus que je l'ai dit, là. Mais à 36 ans, il y a 2-3 ans pour tuer ce football-là vers la Coupe du Monde 2026. Moi, je pense que c'est l'objectif de la Major League de Soccer. Je suis pour moi un ambassadeur qui va conduire ce football-là vers la Coupe du Monde 2026. Et puis, je pense que c'est le joueur qu'il fallait, c'est l'homme qu'il fallait, parce qu'aujourd'hui, il doit être à la Coupe du Basketteur. À ce football-là, parce que toutes les caméras du monde seront braquées pendant 2 ans sur cette Major League Soccer avec un monsieur comme Messi capable de changer la dimension d'un football-là économiquement, sportivement. Et je pense qu'aujourd'hui, il est à sa place pour mettre ce football-là d'aller de l'avant.
Au même moment, l'Arabie Saoudite émerge sur le marché des transferts avec l'enrôlement des joueurs comme Cristiano Ronaldo en décembre dernier et récemment Karim Benzema, N'Golo Kanté, Khalidou Koulibaly, entre autres. Le patron de la MLS, Don Garber, estime que le championnat nord-américain n'est pas pour autant menacé par la puissance financière du royaume. J'ai vu ce qu'il s'est passé en Chine et je ne m'en suis pas inquiété, pas plus que je ne m'inquiète de ce qui se passe en Arabie Saoudite. C'est tout le contraire, a affirmé donc Garber en référence aux dépenses faramineuses entre 2015 et 2017 du championnat chinois depuis rentré dans le rang, il faut le dire. Alors Tarsis, que pensez-vous de l'émergence de la Saudi Pro League? Pensez-vous justement que l'émergence de la Saudi Pro League ne peut pas faire de l'ombre à la MLS?
Non, pas du tout. Parce que qu'est-ce que réellement les gars comme Beckham ont fait depuis l'arrivée de Pelé ici aux États-Unis? C'est effectivement de faire de cette ligue, qui était la ligue nord-américaine de football, qui est devenue la ligue majeure. Et ça, ici, ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas de relégation, c'est-à-dire première division ou deuxième division, non, c'est des clubs, disons, franchisés, et ce sont des franchises, ce sont des sociétés. Et donc, dans cette option, à long terme, vous allez voir, avec l'immigration qui se fait, le nombre de joueurs qui viennent de l'Amérique latine, qui sont devenus américains, qui sont devenus canadiens, et également, évidemment, cette ouverture au niveau du règlement, vous allez voir que d'ici quelques années, à l'image de ce qui se passe au niveau des femmes aux États-Unis en football, vous allez voir comment l'équipe des États-Unis sera renforcée, et que, non seulement au niveau de l'équipe nationale, mais que cette ligue aussi va s'étendre à d'autres ligues. Donc, il y a un schéma qui est en train de se faire, et qui fait trembler d'ailleurs la FIFA, c'est l'organisation d'une ligue mondiale qui pourrait effectivement menacer sur le plan financier la FIFA. Ils sont en train de négocier. Regarde, ce qui intéresse les États-Unis et le monde du football, c'est d'abord le sponsor, c'est l'argent. Et en imaginant aussi, en analysant par exemple les grands sponsors de la FIFA, il y a deux grands sponsors provenant des États-Unis qui sont là depuis longtemps et qui fait que l'image de Messi, comme on le disait tout à l'heure, ne se limite pas uniquement aux États-Unis, ça déborde, ça suit l'image des entreprises qui sont installées en Asie et ailleurs. Donc l'Arabie Saoudite, oui, c'est une sorte d'attirance via le club où on voit que l'État investit dans ce domaine-là qui est un domaine touristique et qui attire, qui passionne. Mais attention, au niveau du financement et au niveau technique et au niveau des structures, l'avenir se trouve aux États-Unis.
L'avenir se trouve aux États-Unis, ce sont donc les mots de Tarsis. Alors, aux États-Unis justement, auxquels il faut joindre le Mexique et le Canada qui vont organiser la prochaine Coupe du Monde 2026. Alors, Beugré, on dirait que c'est le coup marketing parfait pour les États-Unis, notamment.
Ah oui, je le disais, c'est le coup marketing. C'est un effet qui, comme je disais, c'est un des meilleurs joueurs de l'histoire. C'est le meilleur joueur au monde, le champion du monde. C'est bien même le fils, c'est le ballon d'or. Mais vous comprenez que c'est une autre dimension. Il a mis quelques majeures ligues dans une autre dimension. Il est l'ambassadeur idéal pour tirer ce football-là vers la Coupe du Monde 2026. Il n'y a pas de meilleur ambassadeur que lui. Donc je pense qu'en faisant de lui Messi, c'est un coup médiatique extraordinaire pour la Major League, pour l'Inter de Miami, pour tout le football nord-américain. Et moi, je pense qu'il n'y a pas meilleur que lui. Messi, c'est une autre dimension à ce football. On voit aujourd'hui de grands joueurs. C'est vrai, il y a eu des Rooney, mais des Drogba, il y a eu beaucoup de joueurs qui sont venus. Mais quand Messi arrive, c'est une autre dimension du football. Ça permet d'abord aux téléspectateurs de se mettre par 10. Ça permet aux spectateurs de remplir les stades, ça permet aux produits dérivés, ce qu'on appelle en anglais le marché benzine, de prendre une autre dimension. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur ambassadeur que Léo Messi. Et je pense que la Major League et l'Inter Miami ne sont pas trompés sur son plan.
Voilà, vous suivez l'Amérique et vous, une émission de VOA Afrique. Nous revenons tout de suite.
L'Amérique et vous, en direct de Washington.
Merci d'être à l'écoute de VOA Afrique. Si vous venez de nous rejoindre, vous suivez votre émission L'Amérique et vous, nous parlons de la signature de Lionel Messi ici aux États-Unis en MLS. Nous consacrons cette seconde partie de l'émission à la question « Pourquoi les stars africaines en fin de carrière ne reviennent pas jouer en Afrique ?» Beugré Yago, bien évidemment. Je commence par vous. Vous avez joué pour l'AS Sotra, l'Africa Sport d'Abidjan. Vous avez joué au Koweït Club, à Carthage en Tunisie. Pourquoi en fin de carrière, vous n'êtes pas revenu jouer, par exemple, à l'Africa Sport d'Abidjan?
Ah oui, ça fait une très bonne question. La première chose, c'est le développement de nos infrastructures. Vous savez, en Côte d'Ivoire, quand même, nous avons mis plus de 40 ans à construire 6 ans. Vous comprenez, voilà la réalité aussi de ce football africain qui n'est pas assez développé au niveau des infrastructures. La deuxième chose, c'est le professionnalisme du football. Beaucoup de football en Afrique ne sont pas professionnels. Donc, comment revenir si on n'a pas les mêmes salaires? Voici la troisième chose, c'est les biens financiers. On joue au football sévère pour le plaisir, pour la passion, mais après, il faut assurer ses arrières. Et si c'est footballeur qui passe ces 3-4 ans de retour dans leur pays, il sera difficile qu'ils reviennent. C'est vrai, il y a beaucoup de joueurs. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on a un joueur comme Gervinho qui est revenu, mais il ne peut pas jouer en Côte d'Ivoire parce qu'ils n'ont pas les moyens de le prendre en charge. Voici la réelle difficulté du football, du sud-littéral, du football africain. Et si on tourne, on peut faire ce football-là, si on trouve les moyens financiers, on va garder ce football-là, le championnat seront les spectateurs de l'élevé. Aujourd'hui, l'Afrique du Nord a pris une avance terrible. Beaucoup de joueurs de l'Afrique du Nord ne sont pas parce qu'ils ont des très bons salaires. Dans l'Afrique du Sud-Sahara, en Afrique de l'Est, en Afrique du Centre, il est vraiment difficile à un ancien professionnel de retourner et permettre à ce football-là de booster, de monter. Et pour moi, c'est vraiment dommage.
Alors, Beugré Yago, je reste avec vous. Le retour dont je parle peut-être, c'est juste pour aider les jeunes frères, justement, avec votre expérience, pas uniquement pour des questions financières, même si vous évoquez notamment le manque d'infrastructures également qu'il faut reconnaître.
Oui, mais vous savez, moi j'ai été pendant 2 ans entraîneur africain en équipe nationale U23 et U20 de l'équipe nationale Côte d'Ivoire. J'ai vu beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'on apprend notre expérience, on vient transmettre notre vécu, mais après, comme vous dites, quand vous pratiquez, il faut pouvoir aussi dire de ce que vous transmettez de votre expérience. Je pense que les 10 Africains doivent aller chercher cette manière, cette matière vive au niveau de l'Europe, afin de ramener, je pense, ou de donner quand même quelques moyens, afin de transmettre leurs vécu. Pour moi, c'est vraiment important. C'est vrai, nous avons vu pour ce football, nous avons défendu le couleur de nos pays, après les télévisions en reconnaissant, allons chercher ces matières vives qui ont émergé du côté de l'Europe. Vous voyez les entraîneurs, quand tu veux gagner, c'est du côté de Dortmund, il n'a pas réussi après la Coupe du Monde, c'est pas normal. Parce que quand tu regardes le football du Ghana, il se dit, il n'y a pas ce vrai fonctionnalisme, pourquoi venir perdre mon temps. Et quand vous regardez beaucoup d'entraîneurs, et pour moi, si on ne trouve pas ces 3 vertus qu'on vous a dit, le développement de l'infrastructure, le potentiel de notre football, les biens financiers, c'est gravement difficile aux acteurs du football, que c'est un grand joueur de revenir dans notre pays et de transmettre ce qu'ils ont eu comme vécu et comme expérience.
On a des clubs comme l'AS Arta Sola de Djibouti qui attire des joueurs africains en fin de carrière en Europe. C'est le cas du Camerounais Alexandre Song, de l'Ivoirien Salomon Kalou, du Burkinabé Alain Traoré, entre autres. C'est vrai que c'est un club qui dispose de moyens financiers énormes, il faut le reconnaître également. Alors, mais Tarsis, il faut tendre vers cela pour permettre aux stars africaines justement d'apporter leur expérience à leurs jeunes frères sur le continent, comme le disait Beugré.
Je pense que c'est un débat, mais c'est difficile. C'est difficile pourquoi, quand j'analyse, je fais un peu de l'histoire du sport africain, aussi de l'histoire du football africain, c'est encore jeune, ce sont des structures non adaptées finalement au développement du sport de haut niveau. Vous savez, un joueur, c'est un produit qui se vend et qui s'achète quand il devient professionnel, tu deviens un produit marketing qui peut faire avancer des choses. Or, les professionnels vraiment qui ont évolué en Europe et pourquoi pas dans certains sports, même aux États-Unis, quand ils arrivent en Afrique, eh bien, ils trouvent qu'il y a des structures non adaptées au haut niveau. Et puis ils ne sont pas bien accueillis par les structures, par les fédérations, il faut le dire. Et le développement de haut niveau, quand tu amènes ce langage-là, ça pose tellement de problèmes. Mais il faut des efforts. Ils peuvent, je salue d'ailleurs le passage de Mbappé au Cameroun, ils participent aux œuvres de charité, ils peuvent même développer le football par des académies qui créent en étant en Europe. Mais ils sont dans un environnement très compliqué, très professionnel, coaché au plus haut niveau, placé dans des structures très techniques. Et je me demande même si Eto'o, même si le président de la Fédération de football au Cameroun va réussir techniquement. Parce que c'est tellement difficile. C'est ça le Moloko que j'enseigne. Donc je rencontre des entraîneurs venus d'Afrique, de Caraïbes. Il est tellement difficile sans que vous n'avez pas des structures techniques adaptées, bien financées, appropriées au sport de haut niveau, c'est tellement difficile. Donc il y a des conditions salariales, bien sûr, on l'a dit, conditions de sécurité, structures non adaptées, mais aussi il y a l'environnement culturel de haut niveau qui n'est pas adapté, et le monde des affaires aussi.
Alors, Beugre Yago, justement, Tarsis vient de soulever un point également très important, c'est la politique même du sport dans les pays africains. Généralement, la gestion de nos fédérations africaines de football, ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours transparent. Est-ce que c'est cela aussi qui décourage justement ces stars en fin de carrière de revenir jouer dans leur pays d'origine?
Oui, c'est vrai que tu dis impertinent, c'est tout cet ensemble-là qui fait que beaucoup de jeunes ne veulent pas revenir, mais c'est vrai. J'ai vu le développement d'un football commence par cette vision d'un président de la République, par la vision d'un ministre des Sports, par la vision d'un président du club. Aujourd'hui, regardez, la CAF, par le biais de son président, qui a un grand corps, monsieur P, qui est président d'un grand corps, par exemple, Madeleine Sandow, c'est ce qu'il retransmet, c'est ce qu'il transmet au football africain. Aujourd'hui, il faut avoir une licence CAF du club. Vous savez, on a mis trop de temps dans la matérie. Aujourd'hui, ce monsieur a changé la mentalité du football africain. Et le gouvernement, bien sûr, vous savez, le football, c'est une jeunesse qu'on empêche d'aller dans la droite ou d'aller dans la délinquance. C'est aussi un sport. C'est un esprit sain dans un coin sain. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai. On doit canaliser, on doit progresser, on doit développer nos infrastructures, on doit développer nos joueurs, on doit développer et nos pays. Aujourd'hui, pour gagner une Coupe d'Afrique, ils ne sont pas demandés que ce qu'ils peuvent faire. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas dévancé le temps. Comme on l'a fait, non. Il faut dévancer, il faut avancer. Et je pense qu'aujourd'hui, si tout cela est mis dans l'Afrique, surtout le pays du Sahara, peut continuer à progresser. Sinon, je vous dis, nous sommes en retard d'un siècle sur beaucoup de pays du nord de l'Afrique ou de pays du Sahara. J'espère qu'on aura cette force-là de reconnaître et de repartir de l'avant afin de réduire ce bourreau qui est en train de foutre de l'Afrique du Sud du Sahara, du centre de l'Est, d'avancer le projet comme celui du monde.
Alors, Tarsis, le foot, vous l'avez dit, c'est aussi et surtout devenu une question d'argent. Or, nos clubs sur le continent ne sont pas toujours nantis sur ce plan-là. Est-ce que l'Afrique va déjà pouvoir un jour conserver d'abord ses talents sur le continent pour un bon moment avant de les exporter?
Je ne suis pas contre l'exportation de ces talents, mais je suis pour des structures de détection enracinées en Afrique et qui, finalement, ne sont pas des structures à exploiter comme on le fait, comme on fait des affaires. Or, les structures au niveau Afrique ne sont pas bien adaptées. Il n'y a pas de structures techniques qui sont appropriées pour la gestion, pour mener une politique à court et à long terme de prospection, de détection, de préparation des jeunes jusqu'au sommet. Et la difficulté que nous avons, c'est que c'est la fragilité de nos structures, des fédérations, de la base. Écoute, les clubs anglais sont des clubs qui sont là depuis 1887, comme ça. Et par rapport à nous, c'est après les indépendances que le mouvement s'est structuré, et ça commence à se structurer. Donc il ne faut pas vendre la peau de vous. Je ne dirais pas même aller très loin. J'enseigne l'administration du sport, je sais ce que c'est. Et il est tellement compliqué de penser à ce système de maintenir l'élite du sport africain au niveau du football sur notre continent. Car n'oubliez pas que le football africain, c'est un football qui est financé en grande partie par les gouvernements, qui financent les voyages,
voilà qui est bien dit.
Financent les équipes. Oui.
Alors,
quand il s'agit de mettre en place une...
Tarsis, nous sommes à la fin de cette édition de l'Amérique et vous. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet voafrique.com. Présentation Yacouba Ouidraoué, réalisation Lionel Gaïma. Merci à tous nos invités, Tarsis Arérimana, journaliste indépendant et également consultant football Beugré Yao, ancien international ivoirien, pour leur disponibilité et à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la prochaine fois, mais en attendant, une nouvelle édition du journal avec Jean-Roger Billon. Merci.